Nous allons faire quelques lectures. La première dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, un verset que nous connaissons bien, qui nous rappelle ce que Dieu attend de chacun de nous. Hébreux, chapitre 11, verset 6e. C'est la chose que Dieu demande aux hommes. Tout le reste, il le fait, mais cette participation-là, il l'attend de chacun de nous. Hébreux, chapitre 11, verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Vous êtes d'accord? Sans la foi, ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Nous allons faire une autre lecture dans le deuxième livre de Timothée. La deuxième épître de Paul à Timothée, de Timothée chapitre 3, verset 16, qui nous rappelle ce que sont les Écritures, ce que doivent faire les Écritures. C'est quelque chose de très sérieux. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté de grandes bénédictions parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité que nous allons lire maintenant. De Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture, ça veut dire toute l'écriture, du premier mot de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons lire une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre de Luc. Luc chapitre 7. J'ai hésité entre Luc et Matthieu parce que cette histoire se retrouve dans les deux textes. Luc chapitre 7. Nous avons l'histoire de cet homme qui a été admiré, le seul homme dans la Bible qui a été admiré par le Seigneur Jésus. Luc chapitre 7, verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens, envoyés par le centenier, trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, que lorsque nous retournerons à la maison, nos prières soient exaucées. Amen. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que ce soir, Dieu peut nous amener à vivre la même chose que lorsque nous rentrerons dans les jours prochains, nos prières aient été exaucé. Oui, il y a une chose que Dieu demande, c'est la foi. Vous voulez plaire à Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que Dieu sait que le déclic qui va manifester sa bénédiction, c'est la foi de l'homme. C'est pour cela que j'ai lu ce verset, que tout a été écrit. Toute l'écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous enseigner. Il y a peut-être un domaine qui a besoin d'être corrigé ce soir, un domaine de votre foi, parce que la foi, elle peut être, comment dirais-je, mélangée à tout un tas de choses qui ne sont pas bonnes. Jésus parle d'une grande foi. Est-ce que vous aimeriez que le Seigneur vous catalogue comme ayant une grande foi? Bien sûr, hein? En tous les cas, si Jésus parle d'une grande foi, c'est que la foi, elle peut être plus ou moins grande. Vous êtes d'accord? C'est évident. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, pas qu'aux Thessaloniciens, mais j'ai pensé aux Thessaloniciens, il dit, voilà, je prie pour que votre foi fasse de grands progrès. Je prie pour compléter ce qui manque à votre foi. Il a le souci, l'apôtre Paul, de leur écrire pour que leur foi augmente. La foi doit grandir. C'est quelque chose qui plaît à Dieu lorsque la foi qu'il nous a donnée se met à grandir. Voilà, ce texte nous prouve que la foi peut grandir. C'est vrai qu'avec un tout petit peu de foi de bonne qualité, on peut faire de grandes choses pour Dieu, mais quand même ce texte nous prouve que la foi que Dieu demande, elle doit chercher à grandir. C'est peut-être pour ça qu'on est là ce soir, pour apprendre un peu plus du Seigneur et dire « moi, je veux connaître davantage la parole de Dieu ». C'est de notre responsabilité de la faire valoir. Il y a des gens qui ont une foi, « Ah, moi, je ne prie pas, Dieu est souverain. » Est-ce que c'est la foi, ça? Non, ce n'est pas la foi. Vous voyez, on pourrait dire, « Ah, quelle foi il a, il n'a même plus besoin de prier. » Mais je ne crois pas que ça, c'est de la vraie foi. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais on l'entend, ça. Des gens qui disent, « Ah, moi, je ne prie plus, ce n'est pas la peine. Dieu sait tout avant qu'on le lui demande. » Ce n'est pas du tout la foi. Vous voyez, comment on peut être dans la confusion? Oui, Jésus a admiré cet homme. Ça vaut la peine de réfléchir au comportement de ce centenier. Vous avez vu cet homme, il nous est dit qu'il avait un serviteur auquel il était très attaché. Et voyez, la foi véritable, la foi que Dieu demande, est une foi qui doit s'exercer dans les voies de l'amour. Quelqu'un qui dirait « moi j'ai une grande foi » mais qui n'aime pas son prochain, ne pourra jamais être catalogué par Dieu de grande foi. Ce n'est pas possible. En plus, dans ce texte, il n'est même pas parlé de l'amour pour Dieu. Les trois aspects de l'amour de cet homme parlent de l'amour pour son prochain. Est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous aimez votre prochain? C'est ça qui est présenté. Le texte commence avec cette affaire de ce centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché. Et il avait une grande peine parce que cet homme était en train de mourir. Et une foi qui ne repose pas sur l'amour du prochain ne peut pas plaire à Dieu. Et ne peut pas être cette foi que Dieu va admirer, que Dieu va accepter. Pourquoi? Parce que c'est important d'aimer. C'est quoi qui nous a permis de persévérer dans un couple parfois? C'est quoi qui sauve un couple? L'argent? L'argent? C'est l'amour? Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que c'est qui nous permet de persévérer, de combattre, de ne pas baisser les bras quand il y a une situation, mais on le voit dans la famille? Qu'est-ce que c'est que non, on ne va pas baisser les bras? Pourquoi? Eh bien parce qu'on aime nos enfants, parce qu'on s'aime. Voilà, l'amour a une grande, grande importance. Vous le savez que le plus grand, c'est l'amour. Vous savez tout ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13 qui met en avant l'amour. Je vous assure que Jésus a dit que cet homme avait une grande foi parce que la foi de ce centenier était conjuguée à un véritable amour. Oui, l'amour nous permet de persévérer, c'est vrai. Mais il y a des choses quand on aime. Vous voyez, il ne veut pas voir cet homme mourir. Il aurait pu le changer. Vous savez, à l'époque, les esclaves étaient moins considérés que les chevaux, par exemple. Il aurait pu le laisser mourir et dire, bon, au marché mercredi, j'en achèterai un autre. Ça lui aurait coûté presque rien. Les esclaves étaient moins chers que certains animaux, je vous dis. Mais il est attaché à lui. Il ne veut pas baisser les bras. Il ne veut pas le voir mourir. Je voudrais qu'il en soit ainsi pour les situations que nous observons. On a des gens autour de nous qui sont malades. Ils sont sur le point de mourir, spirituellement. Il y a ceux qui meurent physiquement. Mais il n'y en a pas qui sont en train de mourir spirituellement. Pourquoi on continue à prier pour eux alors qu'ils dégénèrent? Alors que quand vous les croisez 3 mois après, ils sont pires qu'avant. C'est pas vrai? Mais parce que vous les aimez. Et cette affaire-là, ça plaît à Dieu. Vous avez un enfant qui n'est pas converti, chaque fois que vous le voyez, il empire. Mais vous ne baissez pas les bras. Seigneur, tu es capable de le sauver. C'est ça l'amour. Ça plaît à Dieu parce que ça donne de persévérer. Quand on ne prie plus pour quelqu'un, mais c'est qu'on ne l'aime pas. Ou qu'on l'aime moins, ou qu'on est découragé, c'est pas vrai? La foi qui aime, une foi, elle doit aimer, il y est attaché, il est touché par l'épreuve. C'est, C'est vrai qu'il faut se décharger de tous les fardeaux. Et il faut le faire systématiquement, continuellement. Mais c'est grave quand on n'a plus d'affection. Celui-là, ça m'est égal, fais ce qu'il veut, j'en ai marre, j'arrête. Non, je crois qu'il faut persévérer. Cet homme, il n'aimait pas qu'un serviteur, il aimait aussi la nation. C'était un étranger. Il est écrit, il aime notre nation. Et je vous pose la question, est-ce que vous aimez votre nation? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas leur nation. Vous qui venez de l'étranger, d'Afrique ou d'ailleurs, est-ce que vous aimez la nation dans laquelle Dieu vous a placé? Eh oui, il faut répondre. C'est important ça. On entend des gens qui disent « Ah, moi je n'aime pas la France ». Mais vous savez, eh bien, je crois en Dieu, mais il y a un truc qui ne va pas. Si on va travailler dans une nation, il faut aimer la nation dans laquelle on va travailler. Vous croyez que c'est important? Eh oui. Quand on entend ce genre de propos, « Ah, moi j'aime pas la nation, moi j'aime pas cette nation », ça ne va pas plaire à Dieu. Ce n'est pas une foi qui sera agréable à Dieu. Vous pourriez dire que vous avez une foi grande qui va remuer les montagnes si vous avez des propos qui font que vous n'aimez pas la nation dans laquelle Dieu vous a placé, ça ne plaira pas à Dieu. Il faut que nous en soyons convaincus. Et si nous n'aimons pas notre nation, il faut s'appliquer, Seigneur, donne-moi de l'amour. Tu m'as placé en France, on est en France, non, pas la France. Seigneur, je suis en France, je vais aimer cette nation. C'est important. On se demande pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées parfois, mais c'est parce que nous n'aimons pas la nation dans laquelle Dieu nous a placés. Réfléchissez-y. Non seulement il aime la nation, mais il a bâti une synagogue. Donc en plus, il aimait le peuple de Dieu. On a chanté tout à l'heure, je me plais dans la maison du Seigneur, je voudrais habiter toute ma vie dans ton temple. Voilà. C'est une chose d'aimer la nation, on peut aimer la nation pour ce qu'elle fait, la culture et tout ce qu'on voudra, le climat, la géographie, tout ce que vous voudrez. Mais est-ce qu'on aime le peuple de Dieu? S'il a construit une synagogue, c'est qu'il devait aimer le peuple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est une question qu'il faut que nous nous posions. Est-ce que j'aime le peuple de Dieu? Ou est-ce que... Comme on l'entend parfois, « Ah, moi, l'Église, j'en ai pas besoin. Moi, les chrétiens, la communion fraternelle, j'en ai pas besoin. Moi, je peux vivre ma vie seule. » Je crois que non. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Il y a l'Église universelle, il y a l'Église locale, l'assemblée de tous les croyants qui sont venus à Jésus-Christ, qui ont été appelés par le Seigneur. Et je crois que si c'est écrit qu'il aimait son serviteur, il aimait la nation, il aimait le peuple de Dieu... C'est parce que c'est un homme qui avait fait un choix. C'était, je l'ai déjà dit dans une autre prédication sur ce sujet, c'était un officier de l'armée romaine, enseigné, formé pour tuer l'ennemi. Il aurait dû haïr le peuple d'Israël. Il avait été formé pour tuer. C'était l'armée, c'est ça. Voyez, malgré la formation qu'il avait eue, malgré l'éducation qu'il avait eue, malgré le parcours qu'il avait eu, il avait choisi d'aimer. Il y a des gens, ils n'aiment pas, ils disent « Ouais, mais c'est comme ça, je suis né dans un foyer, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection, alors c'est comme ça si je n'aime pas les autres. » Eh bien, vous voyez, c'est une belle excuse en vérité. Parce que je crois que lorsque on accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient à nous et l'amour de Christ nous presse. Et c'est facile de dire, moi, je ne peux pas aimer, c'est comme ça, on a vécu dans la haine depuis tout petit, mon père ne nous aimait pas, ma mère ne nous aimait pas, c'est comme ça. Non. Je crois que l'amour, c'est un choix. Nous en avons la preuve dans ce texte. Voyez, mes frères, la foi sans amour est une foi qui n'est pas complète. Dieu nous demande d'aimer. Un frère, j'ai apprécié tout à l'heure, Seigneur, bénis nos bien-aimés. Et dans la foulée, il a dit, bénis nos ennemis. Eh bien, moi, j'ai aimé ça. Est-ce que c'est biblique? Eh ouais. C'est ça, aimer son prochain. Il y a des gens qui se moquent de nous parce qu'on est chrétiens. Seigneur, bénis-les. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être bénis matériellement. Ça veut dire qu'on réclame que la volonté de Dieu soit faite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous dites, bénis tel frère, bénis telle personne, que un lingot d'or va lui tomber sur la tête. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la volonté de Dieu va se manifester dans sa vie. C'est ça la bénédiction. Il serait béni matériellement, peut-être qu'il empirerait, vous comprenez? Mais Dieu sait. Et quand on bénit nos ennemis, quand on bénit ceux qui nous maudissent, eh bien, on aime son prochain. Celui qui n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, ça veut dire, Seigneur, je te prie pour eux. Cet officier de l'armée romaine a été béni parce qu'il avait une foi qui aimait les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Le premier mobile de Dieu pour intervenir sur la terre, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde. Pas vrai? Voilà. Qu'est-ce que c'est qui fait que Dieu continue à bénir, à garder l'Église? C'est parce qu'il nous aime. Ça vaut la peine que Dieu nous aime? Oui, ça vaut la peine. Cet homme avait dans le cœur tourné vers Dieu. Alors, c'était un païen. C'était pas encore un chrétien, cet homme. Je sais pas comment vous le voyez, vous. Je sais pas si... Est-ce qu'il était converti, d'après vous? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que cet homme était converti. Mais voyez, il avait fait des choix. Corneille, tiens, parlons de Corneille. Corneille, c'était un centenier. On va lire juste le choix que l'autre il avait fait. Un centenier, un officier de l'armée. Acte 10, regardez la page. Acte 10. On voit dans la parole de Dieu comme ça des officiers de l'armée romaine qui avaient fait des choix. Pourtant, c'était des militaires. Hein. Ils occupaient Israël, ne l'oubliez pas. Ils devaient être haïs des Juifs. Haïs. Et regardez, acte 10, je prends l'exemple d'un autre militaire. Acte 10, verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Voyez, regardez au verset 31. « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Lui, c'était sa façon d'aimer Dieu. Je pense que, oui, il n'était pas encore converti, puisqu'après il va se convertir après. Mais il avait une façon de servir Dieu, lui, il faisait quelque chose. Quand on aime Dieu, on en reparlera à la rentrée, pour tous ceux qui sont en danger parce qu'ils ne font rien pour Dieu. Quand on aime Dieu, quand on craint Dieu, on doit le servir. Tu l'adoreras et tu le serviras. On voit là deux officiers de l'armée, de la cohorte italienne, des hommes formés à la guerre qui ont choisi de craindre Dieu, d'aimer Dieu. Et c'est pas étonnant que Dieu se soit manifesté dans leur vie. Lui, il l'a manifesté par des aumônes. C'est pas parce que quelqu'un va donner de l'argent qu'il va manifester la crainte de Dieu. Mais c'était sa façon à lui de l'exprimer. Il a fallu qu'il soit guidé sur le chemin du Christ pour qu'il passe par une véritable conversion. Mais c'est la preuve que c'est un choix d'aimer. On doit aimer la nation, on doit aimer le peuple de Dieu. Bien sûr qu'on n'est pas parfait, mais on doit aimer la maison du Seigneur. Vous aimez la maison du Seigneur? Vous aimez ceux qui sont à côté de vous? Mais c'est une question. Ou vos frères, ils vous fatiguent des fois. Hein? Vous aimez vos frères? Eh ouais, mais c'est important. C'est important, c'est une question. Et si on a un problème, eh bien demandons à Dieu qu'il nous aide. C'est pas ça l'honnêteté? Oh Seigneur, j'ai du mal. J'ai du mal à aimer certaines personnes. J'ai tendance à cataloguer les gens. Eh bien non, je vais m'appliquer à les aimer. Priez pour les gens, priez pour la nation, priez pour le peuple de Dieu. Et vous verrez que vous vous mettrez à aimer toutes ces situations-là. Voyez, le choix d'aimer, Corneille avait fait ce choix. Alors, le deuxième point est peut-être le plus important. L'amour, c'est quelque chose. Ça plaît à Dieu, c'est évident, on le sait. Mais le deuxième point a peut-être besoin d'être expliqué ce soir. Bon, ce n'était pas un général, c'était un capitaine de l'armée. Il dirigeait 100 personnes, d'où le mot « centenier ». Ça veut dire qu'il dirigeait 100 soldats. Il avait donc quand même pas mal de responsabilités. Et vous avez vu les propos qu'il tient. Bon, on sait qu'il aime plusieurs choses, c'est vrai. Mais regardez, les Juifs qui étaient là, qui ont été vers Jésus pour lui parler de lui, justement, étaient des religieux. Ils auraient dû connaître la vérité, ils connaissaient la loi de Dieu. Et regardez comment ils parlent. Eux, ils disent, il mérite que tu lui accordes cela. D'accord, c'est des Juifs qui connaissaient la loi de Dieu. Et le païen, lui, il dit non. je ne mérite pas. Enfin, il dit, je ne suis pas digne. C'est pareil, c'est comme s'il disait, je ne mérite pas. Donc, les religieux disent une chose, ils méritent, et lui en dit une autre, non, je ne mérite pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. Alors que Jésus dit de cet homme, il a une grande foi. Qui c'est qui avait raison ? Le païen ou les juifs ? Eh oui, c'est le païen. Parce que la religion du mérite, ça n'existe pas. Mais voyez comment cet homme qui est encore un païen, écoutez bien, frères et sœurs, nous qui voulons faire des progrès dans la foi, cet homme, il est humble. Et l'humilité, écoutez bien, l'humilité vous conduit dans la vérité. À cause de son humilité, il est dans un climat de vérité. Il comprend bien que ce n'est pas parce qu'il a bâti une église qu'il va attirer la faveur de Dieu. Vous voyez, mais tandis que les juifs, ils le croient. Pourquoi le croient-ils ? Pourquoi les juifs qui ont la loi de Dieu disent « oui, ils méritent ». Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont dans l'orgueil, eux. Eux, ils sont dans une combine. Et c'est pour ça que l'humilité attire la faveur de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit « Dieu fait grâce aux humbles ». Vous voyez, les juifs, eux, ils sont dans la propre, c'est ça la propre justice. Il a fait ça, donc il a fait des œuvres, c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Vous voyez ? Est-ce qu'on est sauvés par les œuvres ? Ils sont dans la propre justice. Vous voyez comment la religion, ça met tout en l'air. Vous voyez comment les hommes sont capables de transgresser la loi de Dieu. Et cet homme, il n'a pas été perturbé. Il n'a pas tenu compte de ce que les autres pensaient. Il a fait selon son cœur. Il savait très bien que ce n'était pas ses aumônes, ce n'était pas ses œuvres qui allaient lui attirer la faveur de Dieu. Mais autant l'orgueil de ces religieux les a éloignés de Dieu, autant l'humilité a amené la bénédiction sur cet homme. D'ailleurs, c'est dans Matthieu que pour la première fois, c'est dans le cadre de cette histoire, la même histoire où Jésus dit « car les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements ». C'est la première fois que Jésus utilise cette expression aussi sévère, les pleurs et les grincements dedans, quand cette histoire s'est passée dans l'évangile de Matthieu. C'est pour vous dire que ceux qui connaissaient la loi de Dieu s'éloignaient de Dieu, et un homme qui ne la connaissait pas à cause de l'humilité était attiré vers la vérité. Comme quoi l'humilité nous permet de suite de connaître la vérité. On se demande pourquoi beaucoup de gens ne se tournent pas vers Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas un cœur humble. On se demande pourquoi certaines personnes restent toujours dans l'idolâtrie, dans telle religion. Cet après-midi, on parlait avec une sœur, et quand elle a été la première fois dans une église, avant d'entrer dans une église, elle me disait, j'étais catholique à 100%. Mais avant d'entrer dans le temple, elle a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Elle a de suite compris qu'il fallait qu'elle se débarrasse de toutes les idoles qu'elle priait. Voyez, l'humilité vous fait de suite céder à la vérité. Quelqu'un qui vous dit, mais moi je suis humble, mais quand il dit quelque chose, ouais d'accord c'est écrit, mais enfin, mais ce n'est pas de l'humilité ça. L'humilité, elle croit tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, oui ou non ? Quelqu'un qui dit, oui, moi, vous savez, d'accord, oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer non plus. C'est écrit, même fait. Toute la parole de Dieu est inspirée. Toute la parole de Dieu. Et je suis persuadé que si par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés, nous ne nous en sommes peut-être pas bien rendus compte, mais nous avions quand même un esprit bien disposé. Et nous avons cédé quand on a dit, Dieu l'a dit, je le crois. Pas commencer à calculer, à discuter, une foi qui analyse, qui calcule, qui raisonne et qui continue tout le temps à intellectualiser, c'est pas une foi humble. La foi humble, Dieu l'a dit, je le crois, que son nom soit béni. Dieu fait grâce aux humbles. C'est pour ça que les pharisiens, vous avez vu comment ils s'approchaient du Seigneur ? Vous avez vu ? Tout le temps en train de vouloir le coincer, etc. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Mais ils s'approchaient de Jésus d'une mauvaise manière. Oui, Cet homme avait un cœur bon, mais Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde? Oui ou non? La preuve, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Personne ne mérite quoi que ce soit. Si ce soir, la grâce de Dieu est sur vous, eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Vous méritiez quelque chose? Je ne sais rien. Moi, je crois que non. Oui. En tous les cas, eux, ils le pensent. Eux, ils le croient qu'ils méritent. Voilà. C'est ça, je le répète, la propre justice. Voilà. La foi par les œuvres. La bénédiction par les œuvres. Mais voilà, la justice de Dieu, elle s'obtient par la foi. Donc, vous voyez, c'est un païen et il est dans une attitude de vérité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens se sont convertis, mais quand vous parlez avec eux, vous voyez qu'il y avait cette honnêteté de cœur. Quand on leur a parlé de Jésus, ils ont été honnêtes de suite. Vous en rencontrez pas des fois? Mais c'est bien. Ça serait bien qu'on la rencontre un peu plus souvent. Mais c'est une grande vérité. Cet homme, il compte sur la grâce de Dieu. Voilà. Pourtant, il aurait pu dire, non, mais je vais y aller, moi, je vais y aller. Je vais dire tout ce que j'ai fait, vous allez voir que ça va lui plaire. Hein? Non, non, non. À partir du moment où on considère que la grâce de Dieu est un dû, ça ne va pas marcher. Si quelqu'un dit, ah mais moi ça fait tant d'années que je marche avec Dieu, donc c'est normal que Dieu me bénisse. Oui. Comme quelqu'un qui me disait dernièrement, avez-vous monsieur Gault, vous prêchez, c'est sûr que vous irez au ciel. Oui, voyez, mais c'est ça, c'est une ânerie. Mais voyez, c'est ça, la propre justice. Je fais quelque chose pour Dieu, donc Dieu, il va être plus gentil avec moi. C'est ça. La grâce, ça ne se mérite pas. Ce soir, tous vous avez droit à la grâce de Dieu. Tant mieux, par contre, si vous servez Dieu depuis des décennies, tout le temps dans la fidélité, quel honneur, quelle bénédiction, quel privilège, quelle grâce Dieu ne vous a-t-il pas accordé? Mais l'humilité nous permet de voir les choses comme Dieu veut que nous les voyons. Et ça, c'est extraordinaire. L'humilité nous permet de voir les choses dans la simplicité et non pas ce que les autres pensent de nous. Est-ce que vous vous fiez à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous vous y fiez? J'espère que non. C'est important des fois de savoir, d'avoir des conseils, mais non. Lui, il ne veut rien faire valoir. Il n'ose même pas s'adresser au Seigneur directement. Alors, qu'est-ce qu'il croit? Bon, il aime, il est humble, il croit dans la bonté de Dieu. On l'a lu, hein? Il avait entendu, verset 3, ayant entendu parler de Jésus. Il a quelque chose dans son cœur. Il a une conviction. Il avait entendu des témoignages. Combien de juifs ont dû dire, oh, tu sais pas ce qui s'est arrivé l'autre jour, là-bas, Bethsaïda, tu sais pas ce qui s'est passé, ou là-bas, tu sais pas ce qu'on a entendu, ce Seigneur Jésus. Il avait entendu des témoignages. Et ces témoignages avaient accompli dans son cœur une œuvre de l'Esprit. Il a compris, on va le voir, il a compris la seigneurie de Jésus-Christ. Vous savez que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est écrit. Cet homme, il croit que Jésus est le Seigneur. Puisqu'il dit un mot, et mon serviteur sera guéri. Il a entendu des témoignages de guérison, de délivrance. Donc, le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans le cœur de cet homme. Sinon, il n'aurait pas pu croire que Jésus était le Seigneur. Vous le comprenez bien. C'est quand même une belle étape quand on croit que Jésus-Christ est Dieu. Oui ou non? C'est pas une belle étape quand on est arrivé là? Quand on croit que Jésus-Christ est Dieu dépouillé de sa gloire qui est venu sur la terre, c'est pas bien déjà? Oui, il y a des gens qui ne le croient pas. Il a compris. Il a compris comment Dieu est grand. Il aurait pu dire, c'est vrai que quand même si je veux le chercher, ben c'est vrai après tout. Il a déjà imposé les mains à la belle-mère de Pierre. Eh ben si j'y vais, il va... Ben oui, s'il pose ses mains sur mon serviteur, il va le toucher, il va y avoir un contact physique. Ouais, ça, j'ai plus de chance. Non. Il a vraiment compris qu'il est le Seigneur. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est la foi réaliste. La foi concrète. C'est pour ça que je vous disais, on peut rentrer à la maison ce soir et voir nos prières exaucées. De retour à la maison, il a trouvé son serviteur béni. La foi de cet homme, c'est sérieux. Dis un mot. Est-ce que quand les apôtres ont vu Jésus arriver sur la mer, déchaîné qui marchait sur la mer, Pierre a dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. » Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Viens. Un mot. Viens. Et hop, il a marché. Bon, après ça, il y a eu un petit problème. Mais un mot, viens. Est-ce que Jésus a toujours le même pouvoir dans les cieux et sur la terre ? Dis un mot. Est-il le Seigneur ou non ? C'est ça, c'est tout. Aujourd'hui, Jésus-Christ est-il toujours le même ? Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que le Seigneur peut dire un mot, un ordre du ciel sur votre entreprise, sur votre maison, sur vos enfants ? Seigneur, dis un mot. Donne un ordre. Et mes enfants seront bénis. Dis un mot, Seigneur, et telle situation changera. Un cœur sera incliné. Une situation va se débloquer. Oui ou non ? C'est ça. Et cet homme, il est là-dedans. Il aurait pu, puisque les Juifs le poussaient. Non, c'est pas la peine. J'ai compris qui il est. D'ailleurs, il le dit à Jésus. Moi, j'ai des serviteurs. Je dis à l'un, va. Il dit un mot. Un mot. C'est qu'un homme. Il est capitaine. Il dit, c'est pas le ministre de la Défense. Il a un pouvoir sur des hommes. Il a reçu une autorité de Rome. Cette autorité, il l'a sur les gens qui sont en dessous de lui. Et il dit, mais moi, je suis soumis à mes supérieurs. Mais il a compris l'autorité. Comme il est soumis, il a de l'autorité. Alors, Seigneur, si moi, je dis un mot, tout le monde obéit, toi, qui es Dieu, tu dis un mot et tu as autorité sur la maladie, sur tout. Et mon serviteur sera guéri. Oui, Dieu dit et la chose arrive. C'est pour ça que c'est ce que Dieu dit qui est important. Pour que Jésus ait été étonné de la foi de cet homme, si Jésus a voulu que dans sa parole il soit écrit qu'il a admiré la foi de cet homme, c'est pour que nous comprenions exactement ce qu'il faut que nous fassions pour que nous aussi, nous ayons une foi qui est agréable à Dieu. Vous remarquerez, pour terminer, que dans la parole de Dieu, Jésus, à part avec les religieux hypocrites, bon, mais ça il fallait, c'est, l'hypocrisie ça va pas, il a été sévère, mais Jésus n'a jamais adressé de reproche à ses enfants. Je vous explique. Quand Pierre a renié Jésus, est-ce que Jésus le lui a reproché ? Non, il a juste dit, Pierre, m'aimes-tu ? Bon, est-ce qu'il aurait pu lui faire un reproche ? Vous avez remarqué, vous voyez, quand ils sont enfermés dans la chambre haute, ils ont tous peur quand même avec tout ce que Jésus leur avait dit avant, est-ce qu'il le reproche ? Non. Que la paix soit avec vous. Si vous regardez bien, dans tous les manquements, les faiblesses, les situations, Jésus jamais, jamais ne fait un reproche à ses enfants. Que son nom soit béni. Les seules fois où il fait des reproches, c'est par rapport au manque de foi. Où est votre foi ? Quand ils n'ont pas guéri le lunatique, il leur a dit, mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je ? La perversité, ce n'est pas moral, c'est spirituel, dans le sens où il ne saisissait pas la bénédiction. Jusqu'à quand ? Passerez-vous à côté ? Il pourrait nous le faire, ce reproche. Voyez ? Alors, il n'a admiré qu'une personne qui a eu la foi, mais en même temps, il n'a fait des reproches qu'à ceux qui n'avaient pas la foi. C'est pour ça que la foi est agréable à Dieu. Et si Dieu pouvait se permettre de vous faire un reproche, il nous le ferait dans le domaine d'une foi qui n'est pas cette foi vivante, cette foi confiante. Voyez, dans la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous, la foi, c'est la confiance en Dieu. Cet homme, il avait confiance en Dieu. Voyez, mais c'est dingue ça, parce que c'était un païen et il était dans une attitude de vérité, alors que les religieux étaient dans une attitude d'hypocrisie. Et ça, ça doit nous interpeller. D'ailleurs, il le dit, Jésus, dans Matthieu, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit en entier, quand il dit, mais plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, et que beaucoup de chrétiens, puisque c'est ça, les fils du royaume, seront jetés dans les ténèbres. Et le contexte, alors là, ça ne peut pas être plus clair, c'est une foi vivante, ou une foi superstitieuse, ou une foi hypocrite. Et Jésus lui dit un mot, va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, combien que j'aimerais qu'on parte à la maison, attendez encore, hein, qu'on parte avec cette conviction que si nous aussi, simplement, nous retenions ce soir cette leçon de ces trois vertus, je veux aimer mon prochain, que ce soit un subalterne, que ce soit un supérieur, que ce soit un collègue, que ce soit un chef, qui que ce soit, je veux aimer la nation dans laquelle Dieu m'a placé. Je veux aimer le peuple de Dieu. Je veux céder toujours à la vérité. Dieu l'a dit, c'est clair, c'est bon. Et croire vraiment que Jésus-Christ est le Seigneur. Dis un mot Seigneur. Quand vous priez, faites-lui confiance. Voyez quel exemple. Et je vous répète, il n'était pas encore converti. On peut fermer les yeux quelques instants et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à mémoriser ces choses, à comprendre cette vérité. Moi aussi, oh, je ne veux pas que tu m'admires, je ne veux pas que tu dises devant les autres que j'ai une grande foi. On n'est pas intéressé par ça, ça irait pas déjà. Mais quand même, est-ce que vous aimeriez que vos prières soient exaucées? Est-ce que vous aimeriez que Jésus dise un mot, un ordre du ciel sur votre vie? Bien sûr que oui. Alors, recueillons-nous simplement. Vous savez, cette affaire, ça n'a pas duré des mois. Ça a duré quelques minutes. Quelques minutes, là, sur le chemin. Sur le chemin, il n'y a pas eu d'imposition des mains. Il y a juste eu une véritable confiance. Oui, je suis persuadé que l'humilité attire les gens dans la vérité. J'en suis sûr. Et que l'hypocrisie éloigne de Dieu. Même si on a la loi, même si on a la parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Oui, nous croyons que ces choses ont été écrites pour nous instruire et pour nous faire grandir dans la foi. Tu nous demandes dans ta parole d'imiter la foi de ceux qui ont été exaucés. Apprends-nous, Seigneur, à développer le même genre de cœur que cet homme a eu. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu répands dans nos cœurs et qui nous permet d'aimer le prochain, la nation et l'Église. Accorde-nous cette humilité. Tu as dit que quiconque se rendrait humble comme un petit enfant obtiendrait les choses du royaume. Seigneur, libère-nous de toute forme d'intellectualisme, d'analyse et de raisonnement inutile. Que nous croyons tout ce qui est écrit dans ta parole. Et donne-nous de réaliser combien tu es le Dieu vivant. Oui, un mot, un ordre, et tout change. Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main, confiant, aimant, humble, pour que nos prières, celles qui sont dans ta volonté, soient toutes exaucées. Te prions vraiment pour tous ces frères et sœurs qui sont là ce soir, tous ceux qui écouteront l'enregistrement par le biais de ce CD. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous cette grâce d'aimer, d'être humble et de croire dans ta Seigneurie. Nous le croyons, Seigneur, que tu ne fais pas de favoritisme, et que de la même manière que tu as béni cet officier de l'armée italienne, tu béniras ici dans ce pays les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les étrangers, que tu béniras tous ceux qui s'appliqueront à avoir la même attitude de cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.